Dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3. Oui dire. Bienvenue à toutes les oreilles qui nous prêtent leur attention en ce moment. Bienvenue sur Radio Campus 93.3 et surtout, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Oui Dire, consacrée à la littérature orale et aux arts de la parole. Cette émission est née de l'envie du collectif Quoi ? Collectif Oralité Auvergne, qui réunit toute personne intéressée par l'univers de la littérature orale. Mais la littérature orale, qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est ce que nous nous proposons de vous faire découvrir au fil de ces émissions. Aujourd'hui, nous recevons Françoise Guagou, conteuse et initiatrice du collectif Quoi, qui tout à l'heure nous en dira un peu plus sur elle-même et sur les objectifs de ce collectif. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Depuis le début, je dis « nous ». Mais qui est donc ce « nous » ? Laissez-moi vous présenter trois des membres de notre collectif qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Laurent Marty, notre anthropo-ethnologue bien-aimé. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Annie Tichit, qui nous fera le plaisir de nous offrir une petite histoire au cours de l'émission. Bonjour Annie.
Bonjour.
Et Frédéric Chassagnol, toujours à l'affût de ce qui se passe en ce moment autour des arts de la parole. Bonjour Fred.
Bonjour Fred.
Sans oublier celui sans qui rien ne serait possible, le fabuleux, l'extraordinaire, l'indispensable, le grandissime Pierre Vial à la technique. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Mais tout de suite, je laisse la parole à Laurent pour la première chronique ethno de l'année.
Est-ce que vous avez remarqué combien de temps et d'énergie les hommes et les femmes consacrent à raconter des histoires ? Des histoires, il y en a de toutes petites, comme les anecdotes qu'on se raconte entre amis ou les blagues. Il y a de très grandes histoires, comme les grands textes épiques, l'Iliade, l'Odyssée, le Kalevala, qui est une grande épopée finlandaise, on compte 23 000 vers. Les grands textes sacrés, la Bible, le Coran, le Ramayana, lui, fait 48 000 vers, un des livres sacrés de la mythologie hindoue. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, les hommes et les femmes se racontent des histoires, quelque chose qui nous tient debout et qui nous tient ensemble et qui met de la couleur dans le quotidien. C'est ce qu'on appelle un invariant anthropologique. On pourrait comparer cela à la circulation du sang dans notre corps. La circulation des histoires est vitale dans la vie des groupes humains. Dans cette chronique ethno, nous allons nous intéresser principalement à la littérature orale. Je vous propose au fil des émissions de voyager de par le monde en découvrant les mille et une manières de raconter que l'humanité a inventées et réinvente toujours. Nous nous intéresserons particulièrement aux contes. Les contes se situent quelque part entre les toutes petites histoires et les grands récits. Ce sont des histoires courtes. Un conte, ça dure entre quelques minutes et quelques dizaines de minutes, même s'il n'y a pas de règles à ce sujet et même si vous pourrez rencontrer des conteurs qui vous comptent toute la nuit. Les contes existent depuis la nuit des temps. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, ils circulent sans étiquette, au gré de l'imagination des conteurs et de ceux qui les écoutent. Chaque conte est une performance, c'est-à-dire une œuvre d'art qui n'existe que dans le moment où on la joue, où on la vit. La performance commence quand le conteur ouvre la porte au récit. Il était une fois. La performance prend fin quand le conteur referme l'histoire. Par exemple, en Corse, on utilise cette formule de fin. Fable, fabulette, dites la vôtre, la mienne est dite. Une question se pose. Que reste-t-il du conte vivant aujourd'hui ? N'a-t-il pas été relégué dans l'ombre par le livre et l'écrit, puis plus récemment réduit au silence par l'énorme présence des médias modernes ? Le conte est petit, mais il est malin. Il disparaît, puis réapparaît. Ce sera un des thèmes de cette chronique, justement, le renouveau du conte auquel on assiste depuis 20-25 ans. Une des raisons pour lesquelles le comte est toujours bien vivant, c'est la sagesse qu'il porte, cachée derrière ses airs de légèreté. Ça me fait penser à la figure de Nasreddin le fou empli de bon sens, que l'on trouve dans toute la littérature orale du Maghreb et d'ailleurs, avec son équivalent, à peu près dans la tradition juive, le Shlemil. Écoutez cette petite histoire de Nasreddin. Nasreddin un jour se fit cette réflexion. On a toujours intérêt à apprendre quelque chose de nouveau. Il alla trouver un maître de musique et lui dit « Voilà, je veux apprendre à jouer du luth. Combien ça va me coûter ?»« Pour le premier mois, répond le maître de musique, ça te coûtera 3 pièces d'argent, ensuite 1 pièce d'argent par mois. »« Parfait, je commencerai le 2e mois. » Aujourd'hui, on raconte des histoires aux enfants à l'heure du coucher, ou dans les écoles, ou dans les bibliothèques. Mais les conteurs modernes, tout comme les conteurs d'hier, ne s'adressent pas seulement aux enfants. Les contes nous invitent à écouter nos rêves, à leur faire confiance. Et à ce que je sache, il n'y a pas que les enfants qui rêvent. Alors, laissons-nous transporter. Tenez, un jour, je suis allé voir un conteur breton. Il passait dans la salle polyvalente, dans un village pas loin de chez moi. Vous voyez la salle polyvalente. On a poussé les paniers de basket, on a installé les rangées de chaises en plastique qui grincent sur le sol. Et je me disais, en regardant le plafond si haut, comment on peut raconter ici ? Bon, j'ai rien contre les salles polyvalentes, elles nous sont bien utiles, mais il me semble que les contes ont besoin d'un peu d'intimité. Le conteur a commencé son histoire, je me souviens, c'était une histoire d'aigle. L'aigle s'élevait au-dessus des chemins et des champs, et 5 minutes après, sans même que je m'en rende compte, j'étais installé sur le dos de l'aigle, glissant silencieusement dans le ciel. Avant d'aller plus loin, il faut que je me présente. Je m'appelle Laurent Marty, je suis ethnologue ou anthropologue, comme vous voudrez, c'est pareil. Les ethnologues s'intéressent à la manière dont les gens font avec le monde, comment ils aménagent le monde, là où ils se trouvent, avec les moyens dont ils disposent. Comment font les Inuits pour vivre dans la nuit glaciale de l'hiver polaire? Les Touaregs dans les déserts sans fin? Et comment faisons-nous pour vivre dans la jungle des mégalopoles modernes? Bien sûr, nous rencontrons partout et toujours, dans toutes ces cultures, la littérature orale sous ses multiples couleurs. Les ethnologues ont toujours été assez proches des conteurs, d'abord parce que leur métier est d'écouter les histoires des gens et de raconter des histoires, même si ce ne sont pas des contes. Et surtout, ils ont beaucoup contribué à la transmission des contes. En France ou ailleurs dans le monde, ils ont recueilli et transcrit les récits de la tradition orale et ainsi aider à ce qu'ils parviennent jusqu'à nous. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des ethnologues, par exemple, entreprirent de recueillir la mémoire des Indiens en Amérique du Nord, pendant qu'il était encore temps. Vous savez ce que fut le sort des Indiens d'Amérique du Nord. Nos ethnologues collectèrent des centaines d'histoires, par exemple les histoires qui accompagnent les prénoms. Dans ces cultures, dans ces ethnies, quand on parle d'une personne, on raconte l'histoire, une sorte de poème qui accompagne son prénom. On dit qu'une personne est morte quand plus personne ne se souvient de l'histoire qui accompagne son nom. Voilà, c'est un exemple de littérature orale dans d'autres cultures dont je vous reparlerai dans une chronique à venir dans notre émission intitulée « Oui dire » sur Radio Campus. J'aborderai le conte et la littérature orale en m'appuyant sur les recherches de l'ethnologie et des autres sciences humaines. On dispose en effet de très nombreuses études de terrain et de textes théoriques passionnants. Et je m'appuierai aussi sur les recherches faites par les conteurs eux-mêmes. Je pense par exemple au livre de Michel Hindenock, Pepito Matteo, d'Anne Yashinsky. Je vous recommanderai à chaque émission un ou deux livres en rapport avec les sujets traités. Vous pouvez aussi me poser des questions ou faire des commentaires, voire des critiques si besoin, à l'adresse mail que je vais vous dire, ouidire93.3@gmail.com. Oui, O-U-I-E-D-I-R-E. 93.3@gmail.com. Le livre que je vous conseillerai aujourd'hui sera tout simplement un recueil de contes réalisé par Henri Gougaud qui s'appelle « L'arbre d'amour et de sagesse » aux éditions du Seuil. Vous trouverez dans ce recueil le beau conte que va vous dire Françoise Goigou et qui a pour titre « La mère des contes ». Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne sait pas d'où viennent les contes. En réalité, vous allez l'entendre, ce n'est pas tout à fait vrai.
C'était il y a bien longtemps, au début des temps. En ce temps-là, la terre était une forêt profonde, la forêt première. Au cœur de la forêt, il y avait une clairière. Et dans la clairière, il y avait une petite cabane de feuilles et de branchages. Là vivait la toute première femme et le tout premier homme. Chaque matin, au lever du soleil, l'homme s'enfonçait dans la forêt et il passait toute la journée aux aguets. Il chassait le gibier. La femme, elle glanait, elle ramassait le bois mort, elle cueillait les fruits et les baies. Et au soir, le chasseur rentrait, traînant derrière lui le gibier. La femme l'attendait dehors. Le temps passait sur la forêt profonde. Jour de soleil, jour de vent et de tempête. Jour de grand froid. Justement, le froid s'était installé. Il durait. Le gibier manquait et le chasseur n'avait plus rien à rapporter. Un soir, le chasseur est rentré, grognant, râlant comme une bête blessée. Elle l'attendait. Ils sont rentrés tous les deux dans la cabane. Lui, il a posé son arc. Il a pris un bâton et il a levé le bras sur elle et il a frappé. Le lendemain, comme si de rien n'était, il s'en est retourné dans la forêt. La femme l'a regardé s'éloigner. La journée a passé et au soir, l'homme est rentré, toujours grognant. Toujours râlant. Elle l'attendait, ils sont rentrés. Il a posé son arc, il a pris un bâton et a frappé. Et chaque matin, le chasseur s'éloignait et chaque soir, il frappait. Ainsi, le temps passait sur la forêt première. Jour de grand froid, jour de vent et de tempête, jour de soleil. Un matin, seule, allongée sur sa couche, les mains sur son ventre. La femme, elle a senti quelque chose qui bougeait, une vie, un enfant. Elle goûtait cette sensation toute neuve sous ses doigts. Le bonheur d'être deux. La journée a passé le sourire aux lèvres, écoutant le vent. Mais la course du soleil ne s'est pas arrêtée. Le chasseur est rentré, grognant, râlant. Il a levé le bras, mais la femme s'est approchée. Elle lui a dit « Attends, attends, je vais te raconter une histoire. » Sa bouche s'est ouverte, les mots ont coulé, des mots doux, des mots légers, des mots comme les perles d'un collier. Elle a raconté toute la nuit, et lui, comme un idiot, il est resté le bras en l'air, bouche bée à écouter. Au petit matin, le chasseur est reparti, et le soir, quand il est rentré, les mots ont coulé de sa bouche. Elle lui a raconté comment le soleil et la lune se sont rencontrés, comment la terre-mère a enfanté, comment... Et de soir en soir, la femme, elle a ordonné le monde, et l'homme, il écoutait. Le temps a passé. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Oui. En ces temps-là aussi. Neuf. Neuf mois. Au neuvième mois, ce matin-là, c'était un matin de vent froid. La femme a regardé le chasseur s'éloigner et elle a caressé son ventre qui était bien rond. Et elle savait, le jour était arrivé. Alors, elle est rentrée dans la forêt. Au pied d'un arbre, elle s'est installée, elle a fait un nid douillet. Et le premier enfant est né. Il était si beau, cet enfant-là, que même le vent s'est arrêté. Et les timides rayons du soleil perçaient la ramée pour caresser l'enfant nouveau-né. La mère et l'enfant, ils ont passé la journée, là, tout en douceur. Ils se sont endormis. Et juste avant que le soleil se couche, la femme s'est levée. Elle est allée près de la cabane de feuilles et de branchages. L'homme rentrait juste. Elle lui a tendu l'enfant endormi. Lui, il a ouvert les bras et de ses grandes mains, il a pris l'enfant. Le chasseur a regardé ce tout petit et il a éclaté de rire. Et puis il s'est mis à pleurer. Tous les trois, ils sont rentrés dans la cabane. Sur la couche, ils se sont allongés, le petit au creux de leurs deux corps. La nuit était douce. Au petit matin frais, la femme s'est levée. Le chasseur dormait encore, l'enfant tout à côté. Elle est sortie. Et toutes les histoires racontées durant le temps de sa maternité se sont envolées dans le grand vent d'hiver. Depuis, les histoires ont voyagé à travers le temps, de bouche à oreille, de cœur à cœur. Les histoires ont tissé des fils entre les hommes, entre les femmes, et font taire les bâtons.
C'est la fille d'un pauvre homme qui se lève de bon matin, tigadin.
C'est la fille d'un pauvre homme qui se lève de bon matin, tigadin.
Elle s'en va tout moulin pour y faire moudre son grain.
Digue, 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 d'un caramore américain, caramore tourment. Lure et l'enfant tout si tout ça sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tout loulou.
Tu moudrais, tu moudras, mon grain. Beau, nier, beau, munier, foudrait veux-tu, moudre mon grain, tigodin?
Beau meunier, voudrais-tu, moudre mon grain, tigodin?
Ton grain, il est pas sec, tu reviendras demain.
Tigue, tigue, tigodin, caramor américain, caramor tout le monde. Lurez l'enfant, tout si tout ça, sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tout loulou.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
Tu voudrais, mon grain. Tu voudrais, tu voudras, mon grain.
La belle s'est endormie au sur le tic-tac du moulin, tigodin.
La belle s'est endormie sur le tic-tac du moulin, tigodin.
Réveillez-vous la belle, votre petit sac il est plein.
Tigue, tigue, tigodin, caramor américain, caramor tout le monde. Lurez l'enfant tout si tout ça sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tout loulou.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
Réveillez-vous la belle, votre petit sac il est plein du godin.
Réveillez-vous la belle, votre petit sac il est plein du godin.
Mais que va dire ma mère de voir mon petit sac plein?
Tigue, 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 tin, caramor américain, caramor tourment. Lurez l'enfant tout si tout ça, sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tout loulou.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
Mais va dire ma mère de voir mon petit sac plein de godin.
Mais que va dire ma mère de voir mon petit sac plein de godin.
Tu diras à ta mère que si tu sarrasin.
Tigue, 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 din, caramor américain, caramor tourment. Lurez l'enfant tout si tout ça sur la ligne du moulin, sur la meule du moulin, sans tout loulou.
Tu moudras mon grain, tu moudras mon grain.
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 Oui dire sur Radio Campus 93.3.
C'était Digodin, interprété par les Charbonniers de l'Enfer, que vous pouvez retrouver dans l'album Wow. Bon, je sais ce que tout le monde se demande en ce moment. Mais à qui donc appartenait cette jolie voix qui nous contait la mère des contes tout à l'heure? Si vous avez bien suivi, c'est celle de Françoise Guagou et vous allez pouvoir profiter pleinement de son timbre si agréable puisque voici venu le moment de poser quelques questions à notre invitée. Alors, Françoise, dis-moi, avant d'être conteuse, tu étais enseignante. Qu'est-ce qui t'a amenée au conte?
Alors, d'une part, parce que j'ai pas eu beaucoup de contes quand j'étais petite. Donc, voilà, j'ai envie de raconter des histoires aux autres. Et puis de m'en raconter en même temps à moi. Et puis, en tant qu'enseignante, j'ai été enseignante pendant 13 ans, dont 6 ans avec les enfants du voyage. Et du coup, avec ces enfants-là, c'était le conte était un moyen pour moi de les amener à la lecture et à l'écriture. Voilà, alors, ou bien en racontant les histoires, ou bien en les lisant.
D'accord. Et qu'est-ce que tu cherches exactement dans le conte?
Ah ben, dans le conte, je cherche d'abord la rencontre. Voilà, le fil. Dans la transmission, c'est une parole intime, mais qu'on met en public. Et moi, ce que j'ai envie, c'est faire partie de cette chaîne des conteurs, des troubadours qui, comme la mère des contes, il y a les histoires. Il faut surtout pas les laisser perdre. Et puis on a besoin de contes.
Et justement, alors, à qui tu racontes exactement? Qui a besoin de ces contes?
Ah bah tout le monde. Après, moi, je raconte surtout aux enfants et même aux tout petits. Et ce que je raconte beaucoup depuis 2005, depuis septembre 2005, je travaille beaucoup avec les écoles des quartiers nord maternels. Et je raconte donc des histoires à des enfants qui sont pas nécessairement francophones. Et depuis 2005, je me rends compte que l'écoute et l'envie d'avoir des histoires par ces petits est de plus en plus important.
Et qu'est-ce que tu leur racontes exactement à ces petits et aux autres ?
Les petits bouchons, ce sont des contes de randonnée du type roule-galette, voilà. Par exemple, quelques petits contes merveilleux comme le petit poussé qu'ils aiment beaucoup. Mais après, ce sont des contes avec les tout petits. Je raconte beaucoup d'histoires avec des marionnettes, avec des tapis à histoire qui sont créés par une amie Christine Rigui. Voilà. Et du coup, pour ces enfants-là, il y a besoin d'un visuel. Et puis, eh bien, après, pour les plus grands, puisque j'aime énormément raconter aussi pour tout public et pour les adultes, je crois que le conte que je préfère, c'est le conte merveilleux. Donc, doucement, je vais sur ce chemin-là du conte merveilleux.
Voilà. Et ce sont plutôt des histoires de chez toi ou des histoires d'ailleurs?
Non, c'est plutôt des histoires d'ailleurs. Je raconte des histoires de culture latino-américaine, tout simplement parce que pendant plus de 15 ans, j'ai été baignée dans cette culture-là, autant en appartenant à un groupe de musique péruvien. J'ai passé plusieurs mois au Pérou, donc c'est vraiment une culture qui me touche énormément. Et puis la culture manouche, parce que pendant 6 ans, ces enfants et les parents m'ont énormément apporté. Et j'ai envie aussi, j'ai envie de raconter ces histoires de ma fenêtre, parce que je suis qu'une gadji pour les manouches, et je ne suis qu'une française pour les péruviens, mais je raconte mes histoires de ma fenêtre. Et je crois que le conte a une force, c'est que, comme la mère des contes le dit bien, c'est que les contes, ils ont fait le tour de la terre. Et du coup, c'est vraiment notre matière qui est universelle. Donc, voilà, c'est pour faire le lien avec tous et puis pour changer aussi peut-être le regard sur ces cultures avec mon regard à moi de française. Voilà.
Et justement, tu parles beaucoup de chaînes entre les conteurs, de liens entre les gens, entre le public, toi. Et justement, tu es aussi ici aujourd'hui, puisque c'est toi qui es à l'initiative du collectif Quoi ? Et d'où t'es venue cette idée d'un collectif ? Quelle idée de vouloir réunir des gens comme ça ? Qu'est-ce qui t'a pris ?
Oui, c'est un peu... c'est un rêve qui est en train de doucement se mettre en place et ça c'est merveilleux. En 2005, j'ai fait une formation au Centre méditerranéen de littérature orale à Alès, dont le directeur Marco Barré est un anthropologue et partage ses connaissances et son amour de la littérature orale avec, je crois, au cœur de sa parole. Le fait que la littérature orale et le conte merveilleux en particulier est un des outils qui peut permettre à l'individu de se construire et de retrouver des bases. On dit qu'on est dans un monde où rapide, où les gens ont plus nécessairement de bases, de références, et du coup où le conte et la littérature orale se raconter, ce serait un des moyens de permettre aux gens de se retrouver et de retrouver l'autre.
D'accord. Et alors, qui as-tu réuni exactement au sein de ce collectif ? À qui est-ce que tu as fait signe ?
Oh, c'est parti de coup de fil, au premier cercle, on va dire, c'est-à-dire des amies conteuses ou des amis conteurs, avec une rencontre avec Laurent lors d'une conférence à la fac. Toutes ces personnes-là, à chaque fois que je parlais du collectif et d'une possibilité de rencontre et de moments de pour se retrouver, c'était des oui. Donc ça nourrit. C'est extraordinaire. Et du coup, au départ, on a commencé par se retrouver au mois de juillet 2011, où on devait être une douzaine, on va dire, donc des conteurs, amateurs, professionnels, des musiciens. Et puis, petit à petit, année 2011-2012, on s'est rencontrés à peu près tous les mois et demi. Et au jour d'aujourd'hui, on est plus d'une trentaine de membres du collectif. Et là, qui s'est ouvert, donc des conteurs, évidemment, des chercheurs, notre ethno-anthropo Laurent, des bibliothécaires, des médiathécaires, des gens qui font la programmation de conteurs dans les festivals. Voilà, et c'est ouvert, c'est vraiment ouvert à tout ami du conte, amateur, toute personne ou racontant ou, je vais dire, utilisant la littérature orale comme outil dans son travail, comme les enseignants. Il y a des enseignants parmi nous qui, effectivement, utilisent cette parole-là dans un but pédagogique. Voilà.
Et pourquoi ici, en fait ? Est-ce qu'il y a un besoin qui s'est fait ressentir de créer un tel endroit, entre guillemets ?
Alors, ici, enfin, en Auvergne, il n'y a pas de structure où les différents... Je vais appeler ça amis du conte, hein, mm-hmm. où les différents amis du conte peuvent se retrouver. Une anecdote, au mois de juillet, quand on s'est retrouvés la première fois, j'ai fait la rencontre de personnes toutes nouvelles qui habitaient à moins de 10 kilomètres de chez moi. C'était Nathalie Tibur, qui raconte... On se connaissait pas, ni l'une ni l'autre. Je trouve ça... je me suis dit, donc du coup, c'est sûr, le collectif, il a sa place et vraiment, il faut l'ancrer chez nous, quoi. Parce que des forces vives, il y en a énormément. Il y a plein de lieux où se font des contes, sauf que c'est à huis clos et la diffusion se fait pas. Donc, on a l'impression d'être tout seul. Alors déjà que le conteur est seul, mais alors là, du coup... Donc, c'est aussi pour ouvrir et pour qu'on se retrouve plus tout seul dans notre petite tour d'argent, quoi. Mmh. Voilà.
Et concrètement, en fait, en ce moment, vous avez depuis juillet 2011, il s'est passé quoi exactement ? Des ateliers, des formations ?
Oui. Alors, il y a eu des formations. Eh bien, entre autres, avec Françoise Dieppe sur le conte et le tout petit, avec Florian Allaire sur le rythme et la musique. Il y a eu des ateliers, alors, entre nous, on va dire d'auto-formation ou d'auto-information sur ce qu'on avait envie de partager avec les autres. Et puis, ça a été vraiment des grands, grands moments de rencontre. Est tellement grand que en juillet 2012 a émergé l'envie de ce collectif d'avoir une vraie structure avec association, statut, charte. Des groupes de travail se sont mis en place sur ces différents points. Et voilà, et du coup, les gens sont vraiment sur la route pour faire naître notre COA.
Et même une émission de radio qui commence.
Absolument.
Et peut-être au sein de laquelle les gens pourront retrouver les informations ultérieurement sur ce qui se passe dans le collectif.
Absolument.
On a beaucoup parlé du collectif, mais toi, est-ce que tu as des actualités en ce moment ? Je crois savoir qu'en plus, tu as double casquette.
Oui. Alors, double casquette parce que j'organise des formations en Haute-Loire à Joncherette. Alors, cherchez pas sur la carte, c'est tellement petit qu'on ne le trouve pas. Le GPS non plus, on ne le trouve pas, voilà. C'est près de Roré, près du Puy-en-Velay, voilà. Depuis, c'est la cinquième année que nous organisons un stage sur l'année avec Micheline Denocq, donc qui reconduit cette année. Et pour la première fois, on invite Jihad Darwish à venir aussi, donc sur trois sessions, à faire une formation sur l'essentiel du conte. Voilà. Et donc ça, c'est ma première casquette d'organisatrice, on va dire. Mm-hmm. Après, dans le cadre de mes actus, eh bien, le 25 septembre à Volvic, je raconte pour les tout petits à la médiathèque. Et ensuite, à Vichy, je raconte aussi à la médiathèque pour des tout petits La petite bête qui monte. Voilà.
Et si les gens veulent avoir plus d'informations sur tout ça, est-ce que tu peux nous donner un contact ?
Oui. Eh ben, un numéro de téléphone. 06 81 33 91 56 ou une adresse mail à Maupassant A M O T S P A 2 S A N T @wanadoo.fr.
Merci Françoise. Alors attends, je vais pas te laisser comme ça, j'ai une dernière question à te poser. On dit qu'un conteur n'est pas payé pour dire la vérité. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu as déjà menti dans ta vie ?
C'est une bonne question.
Quel a été ton plus gros mensonge, Françoise ? Vas-y, nous t'écoutons.
Mon plus gros mensonge ?
Oui, on veut savoir.
Alors, tu me fais remonter loin, loin, loin dans le temps. Le plus rigolo, peut-être pas pour mes parents, mais voilà. Je devais être en CE2 où je disais à tout le monde, à qui voulait l'entendre, que j'étais une enfant adoptée qui venait de Chine parce que j'avais un nez Camus et j'avais horreur de mon nez. Voilà. Et ma maîtresse était la cousine germaine de mon père. Et elle m'a fait monter la rue de Terre Blanche de l'école à la maison de mes parents en m'attrapant par l'oreille. Et quand je suis arrivée chez moi, je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai pas passé un très très bon moment. Voilà.
Merci beaucoup Françoise.
Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. S'il y a un mot de vrai dedans, que le diable m'emporte là. La 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 lève. La 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 lève. Je me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Et je suis parti travailler au fond de la rivière là. La 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 lève. La 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 lève. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. Je roule en haut, je roule en bas, il tombe des noisettes là. La 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 lève. La 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 lève. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Vous trouverez ma femme dans le four et puis la poule qui tricote là. La 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 lève. La 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 lève. La 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 lève.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
C'était la chanson des mensonges, interprétée par Michel Hindenock, un conteur que nous adorons tous ici, et que vous pouvez retrouver, le morceau, sur l'anthologie de la chanson française, le volume consacré aux chansons pour enfants. Dites, vous n'entendez pas quelque chose ? Comme un murmure, un écho de quelque chose qui vient de loin ? Mais ne serait-ce pas la douce voix d'Annie qui s'apprête à nous susurrer un conte curieux au titre des plus étranges, la chair de la langue.
Il y avait autrefois un roi riche et puissant et une reine. une reine qui était maigre, pâle et triste. Elle n'avait aucun appétit, ni pour la nourriture, ni pour la vie. Le roi observait sa reine et ne savait pas comment lui redonner les rondeurs qu'elle avait eues quelques années auparavant. Un jour, le roi regarde par la fenêtre de son palais quand il voit passer dans son jardin une femme qui respire la santé, une femme bien ronde et bien plantée, une femme au corps généreux et au regard radieux. C'est la femme du jardinier. Il est abasourdi. Sa femme, à lui, a tout ce dont elle peut rêver, tout ce qu'une femme peut souhaiter, et elle est maigre comme un clou rouillé. Le jardinier, lui, n'a pas de quoi se nourrir tous les jours. Et il a une femme qui a des formes d'abondance. Le roi sort de chez lui et va trouver le jardinier. « Ta femme est resplendissante, la mienne est souffrante. Dis-moi de quoi tu la nourris. »« Moi, répond le jardinier, je nourris tous les jours ma femme avec la chair de la langue. »« C'est tout ? » ?»« Oui, c'est tout. » Le roi rentre précipitamment chez lui et va trouver son cuisinier. « Tu vas me préparer un banquet avec des langues de toutes sortes, assaisonnées de toutes les manières possibles. Je veux une palette de saveurs qui soit digne des palais les plus exigeants. » Le lendemain, les tables sont recouvertes de toutes sortes de plats avec des langues de bœuf, de veau, des langues de mouton, de lapin, d'alouette, de moineau et d'aigrette. Des langues grillées, mijotées, rôties, farcies, bouillies, et puis toutes sortes de sauces avec des épices du monde entier. Le roi va chercher la reine et l'accompagne, fier de lui, jusque dans la salle à manger. Il l'invite à se servir. La malheureuse voit toutes les langues baignées dans des jus aux couleurs étranges. Elle a mal au cœur. Elle regagne immédiatement sa chambre. Le roi est dépité. Il va de nouveau trouver son jardinier et lui dit: « Tu vas prendre ma femme chez toi pendant 6 mois et la tienne viendra vivre au palais. » Les désirs des rois sont des ordres. Dès le lendemain matin, l'échange est fait. Il en faut du temps dans la vie. Dans les contes, il suffit de 2 mots. Dès le lendemain matin, l'échange est fait. Et voilà 6 mois qui viennent de s'écouler. La reine revient au palais resplendissante. Elle est toute ronde et elle rit à la vie. La femme du jardinier, quant à elle, a dépéri. Elle est maigre et grise. Son regard est éteint et son visage ne sait plus sourire. Le roi, qui ne comprend plus rien, demande aux femmes de lui expliquer. « Quand mon mari rentre le soir, dit la femme du jardinier, il est de bonne humeur. Qu'il ait de quoi acheter à manger ou pas, il me raconte sa journée. Les fleurs qui ont éclos, les arbustes qui ont poussé, les fruits qui se sont épanouis, la pleine lune dans la nuit. Quand il a fini, il joue de la musique et il chante, puis il me raconte des histoires. » Me récite de la poésie et les soirées avec lui prennent la saveur d'un paradis. Oui, renchérit la reine, il a toujours une belle histoire ou une parole douce à offrir et cela embellit la vie. Il donne le meilleur de lui-même, la chair de la langue. Nul ne sait si le roi a vraiment compris. Certains disent que ce jour-là, les deux femmes ont choisi de vivre avec le jardinier. D'autres, plus optimistes, racontent que le roi s'est mis à raconter de beaux récits et que sa reine a vécu le restant de ses jours très épanouie.
Dire in paz alla nostra nena che ha tante stelle al ciel. Voudria pas mai plus qu'à sonuel. Dire in paz alla nostra nena che ha tante stelle al ciel. Dire in paz alla nostra nena che ha tante stelle dal ciel. Dire in paz alla nostra nena. Dire in paz alla nostra nena, camuna cantun luz al ses. Dire in paz alla nostra nena, din sa banus caltan plura. Te voudria pas desrebellia, dire in paz alla nostra nena. Quien sabal nos caltan plura, diren paz a la nostra nena, quien sabal nos caltan plura,
diren paz a la nostra nena, que ya tan destelos al cielo. Sunel dire in paz alla nostra nena che ha tante stelle al ciel. Dire in paz alla nostra nena che ha tante stelle al ciel.
La farà il regno des angels e che se vuol dormire la nena la farà il regno des angels e che se vuol dormire la nena la farà il regno des angels.
Vous écoutez Oui Dire sur Radio Campus 93.3.
Vous venez d'écouter un extrait du dernier album de La Mal Coiffée que je vous recommande chaudement. Quant à l'histoire de la chair de la langue, vous pouvez la retrouver dans les contes curieux des quatre coins du monde de Praline Guépara. Après avoir dégusté une histoire si savoureuse, ça donne envie d'en écouter tout plein d'autres. Dis Fred, toi tu pourrais peut-être nous aider. Toi qui es toujours au courant, tu n'aurais pas entendu parler de quelques rendez-vous qui comptent dans le coin ?
Mais si, mais si. Tout d'abord, du 2 au 13 octobre, dans tout le département de l'Allier, vous pourrez profiter du Festival de Contes « Il était une voix », organisé par le Conseil Général de l'Allier et la médiathèque départementale, sous la direction artistique de Françoise Guagou. Alors, l'inauguration se fera au Théâtre de Saint-Pourçain le 2 octobre à 20h30, en compagnie de Micheline Denoc, Frédéric Lanor et Sylvie Santi, auxquels s'ajouteront les jours suivants Patricia Gaillard, Kamel Guénoun, Pierre Dely et Hassène Ayesh. Alors, plusieurs villes du département de l'Allier donc sont concernées, telles que Néry-les-Bains, Prémillat, Moulins, Cône-d'Allier, Cressanges, et j'en oublie, mais vous pourrez avoir tout le programme du festival sur le site des médiathèques de l'Allier, www.mediathèque.allier.fr. Et ces spectacles sont offerts par le Conseil Général et la médiathèque départementale de l'Allier. Alors, plus près de Clermont, dans le Puy-de-Dôme, il y a la médiathèque de Volvic qui va accueillir en octobre le conteur Pascal Quéré. Et à partir de 21h, jusque tard dans la nuit, il emmènera le public dans ses mille et une nuits, le samedi 6 octobre à 21h. L'entrée sera offerte et on vous y attend nombreux. À rappeler aussi que dans le cadre des 15 ans du Café des Augustes, une journée anniversaire et une grande soirée festive est prévue le samedi 13 octobre. Et à cette occasion sera diffusé un CD de contes enregistré par 15 et un conteur qui ont participé au CAF Contes ces dernières années. La participation est libre et on vous encourage à vous le procurer. Voilà. N'hésitez donc pas à abandonner vos écrans et à régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces belles nouvelles. On te retrouve bientôt pour des nouvelles toutes fraîches.
Oui, le mois prochain.
Chouette. Et oui, le conte, ça se regarde, ça s'écoute, ça se dit, mais ça se lit aussi. Alors avant de se quitter, Françoise, aurais-tu un petit conseil de lecture à nous donner?
Alors un conseil qui va paraître une concertation avec Laurent, alors que pas du tout. Il en a parlé dans sa chronique et moi je suis rentrée dans le Ramayana. Le Ramayana qui est conté selon la tradition orale, c'est de Serge Démétrian, chez Albin Michel, et bien sûr qui est suivi du Mahabharata, qui est l'autre grande épopée indienne. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et à vos livres.
Oh, merci Françoise, ça donne l'eau à la bouche. Si éventuellement les auditeurs ont envie de te demander d'autres conseils de lecture, tu peux nous redonner ton contact?
Oui. Peut-être l'adresse mail.
Voilà, pour être un peu au courant des informations pour les formations, les spectacles et compagnie.
Alors, à mot passant, amotspa2santwanadu.fr.
On te dit au revoir, mais peut-être reviendras-tu pour une petite chronique sur le renouveau du conte, qui sait?
Avec plaisir.
Annie, merci beaucoup pour cette histoire pulpeuse et pleine de vie. On te dit à bientôt.
À bientôt.
Et Laurent, après ce début alléchant autour de la littérature orale, qu'est-ce que tu nous concoctes pour la prochaine fois?
Écoute, je pense parler des histoires qui se promènent autour des prénoms, puisque des prénoms on en a tous et on a tous des histoires qui vont avec. Et puis de cette idée qu'il y a souvent dans le conte d'enfants abandonnés, d'enfants qui sont perdus. Et j'aime bien le fait qu'ils soient perdus et qu'ils finissent par se retrouver. Ça existait dans le passé, ça existe peut-être aussi encore maintenant et on verra ce que les contes nous disent là-dessus.
Merci beaucoup Laurent. Pierre, un grand merci pour ton efficacité, tes conseils. Tu continues avec nous?
On va dire oui.
Ah! Alors pour ceux qui nous écoutent, vous ne le savez pas, mais dans l'ombre du studio, notre marraine fée du Pays des Contes, Christine Buteau-Bourguignon, et notre fidèle paire d'oreilles, Christine Rigui, n'en ont pas perdu une miette. Merci les Christines. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous avez entendu au cours de cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse mail suivante ouidire93.3@gmail.com. Tout se tient, c'est en minuscule, ouidire, O-U-I-E-D-I-R-E. Et si vous vous languissez déjà de la prochaine émission, voici une petite énigme pour vous occuper l'esprit. Tant que vous me cherchez, je vis. Quand vous me trouvez, je meurs. Je la répète. Tant que vous me cherchez, je vis. Quand vous me trouvez, je meurs. On vous laisse réfléchir. On vous donne la réponse le mois prochain. Dans l'attente de vous retrouver dans Oui Dire sur Radio Campus 93.3, nous vous rendons vos oreilles. Prenez-en soin. Dorlotez-les, chouchoutez-les. Faites-en bon usage. Et pensez à nous les ramener la prochaine fois.